vous avez le pied au niveau de la chaussure. On reste dans le cadre d'une finale, je n'en veux plus. C'est clair ?
Voilà. Non, je n'ai pas touché.
C'est déjà trop. Non.
Salut tout le monde, c'est Abdallah, vous écoutez Banquette, votre podcast champion du monde. Ça y est, c'est la rentrée, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison. Et pour commencer, on a décidé de reprendre avec un format qui vous a bien plu l'an dernier, celui des tables rondes. Et cette année, il y a du nouveau puisque Boris, que vous avez déjà entendu dans Banquette, m'accompagnera tout au long de la saison pour ses épisodes collectifs. Et comme l'équipe de France a remporté son deuxième titre de champion du monde, il fallait qu'on s'adapte. Donc, en faisant des tables rondes à deux têtes. Alors, bienvenue Boris, comment ça va ?
Ça va très bien, tu es en train de sous-entendre que je suis ta deuxième étoile.
Exactement, c'est si. La deuxième étoile de Banquette, pas la mienne. Hein. Ah. Je suis la première, c'est
c'était
la deuxième.
C'était hyper beau quand même, j'aimais bien être ta deuxième étoile à toi.
Bon, si tu veux, on garde ça comme ça.
Ok.
Ça te va ? Ok. Cool. Alors, pour ce premier épisode, on va parler de la plus belle compétition de club qui existe, celle qui nous fait vibrer de septembre à mai. Je parle bien sûr de la Ligue des Champions et... Petite anecdote, l'Olympique de Marseille reste à ce jour le seul club français à l'avoir remporté en 93. Je dis ça comme ça, sans absolument aucun troll.
Petite
vraiment.
Anecdote, Marseille ne participe pas à la Ligue des Champions et du coup, on ne parle pas de la Ligue Europa.
On parle que des choses positives, hein. Que les choses positives dans ce podcast, d'accord ?
C'est bien d'avoir des clubs français en Ligue Europa aussi. Hein.
C'est bien aussi qu'ils vont en finale, par
en
exemple.
Plus.
En plus, en plus. Et donc, pour parler Ligue des Champions, j'ai avec moi donc Boris, mon nouvel acolyte de choc, et aussi Ambre Godillon, journaliste pour Yahoo Sport, qui nous revient tout juste d'Angleterre, où elle a assisté à deux beaux matchs de Ligue des Champions. Comment ça va, Ambre ?
Ça va très bien. Comment ça peut aller mieux après de tels matchs ?
C'était quoi,
avec des clubs français, en plus.
Alors, tu as vu Liverpool, PSG, Manchester City, Olympique Lyonnais. C'était quoi ton match préféré ?
A priori, en termes d'atmosphère et de qualité de jeu, Liverpool, j'ai adoré. Mais après, pour les clubs français, l'exploit réalisé par l'OL, quand même...
Ouais,
magnifique.
Donc c'était beau.
Ah ouais, c'était magnifique.
Bon, on aura peut-être l'occasion d'en reparler un petit peu.
Il restera dans l'histoire, celui-là.
Ah, ça, je pense. Ça, c'est sûr. Et aussi, on a invité Hugo Bocchi, journaliste pour Move It, qui nous vient tout droit de sa rédac, tout simplement. C'est aussi bien. Comment ça va, Hugo ?
Très bien aussi. De belles journées de Ligue des Champions qui sont terminées hier soir.
T'as regardé les matchs, même si l'OM n'est pas en compétition ?
Oui, j'ai regardé Shakhtar.
Sur un streaming.
C'est ça, un streaming. Bon, on va pas le dire, mais Shakhtar, Offenheim et Lyon hier soir aussi. Belle victoire, même si supporter de l'OM, ça fait pas toujours...
Ça t'a fait un peu mal ?
Un petit peu.
Waouh, faut pas...
Non, ça va, c'était une belle victoire.
Moi j'ai kiffé en tout cas, C'était un bon match à voir. Alors bref, le principe de cet épisode est assez simple. On va faire comme Gianni Infantino fut un temps. Donc on va tirer au sort, on a des petits papiers, on n'a pas de boules, mais vas-y Boris.
J'allais dire qu'on allait truquer les tirages.
Il n'y a donc pas de boules ce soir.
Non, on n'a pas de budget. Du
ceci,
coup,
vous regardez.
On a tout mis dans le budget streaming pour regarder les matchs de foot.
D'accord.
Donc on n'avait plus assez d'argent pour avoir des boules.
Abdallah, il a acheté son maillot 2 étoiles aussi.
Non, tu l'as pas reçu encore. C'est ça, ouais. Alors on va tirer au sort un petit peu, on va faire un tirage au sort en fait, avec des thématiques particulières. Donc il y a 4 chapeaux. Dans le premier chapeau, c'est souvenir et pronostic. Ensuite, si on reste dans la thématique souvenir, on va aborder les souvenirs de joueurs ou d'équipes, et d'équipes ou de joueurs anglais, espagnols, allemands, italiens, français ou d'autres championnats. Et si on tire dans le chapeau 1 un pronostic, donc ce sera des pronostics et des petites questions qu'on vous a concoctées avec Boris. Et puis, si on commençait maintenant.
Moi, j'ai hâte.
T'as hâte ? Très bien.
Donc moi, j'ai tout compris en plus.
T'as tout compris. Tu verras, c'est hyper simple. Donc je ferme mon ordi et je fais genre...
C'est plus facile que la Ligue des Nations. Hein.
Ouais,
franchement.
Voilà, je...
Tout aussi prestigieux.
Tire au sort. Alors qu'est-ce qu'on a ? On a souvenir. Voilà, souvenir. Est-ce que c'est joueur ou équipe ? On va prendre le premier qui vient. Allez. Souvenir d'équipe. D'une équipe anglaise en Ligue des Champions. On va commencer avec toi, Ambre, vu que tu nous reviens d'Angleterre. Un souvenir en Ligue des Champions en phase de poule, enfin même pas en phase de poule, un souvenir en Ligue des Champions.
Ah, on peut aller jusqu'en finale ?
Jusqu'en finale. Vraiment, on parlait d'un souvenir d'une équipe anglaise.
Quelle que soit l'année.
Bah alors, je vais choisir 2005. Je vais rester sur Liverpool. Ouais. L'impression d'hier, le miracle d'Istanbul. Pour moi, l'un des matchs, en tout cas de l'ère moderne du football que j'ai suivi, en tout cas, l'un des plus marquants, des plus somptueux, des plus renversants. Voilà, le fameux Liverpool contre Milan, le miracle d'Istanbul, avec l'équipe milanaise de Carlo Ancelotti renversée alors qu'elle menait 3-0 à la mi-temps, et moi qui suis une fan absolue de Steven Gerrard. Voilà,
mais l'un du des coup, matchs que j'ai adoré le plus. Si t'es fan de Liverpool, comment t'étais à la mi-temps à 3-0? Est-ce que t'étais à le droit d'aller dormir ou t'y croyais encore?
Mais non, c'est de toute façon une finale de Ligue des Champions. Je pense qu'on n'éteint jamais la télé déjà. On attend jusqu'au bout. On a envie que les joueurs se battent comme des chiens, mais évidemment, on n'y croit plus. Et les joueurs de Liverpool, eux, y croyaient encore. Et Steven Gerrard, d'ailleurs, dans le vestiaire à la mi-temps, y croyait encore. C'était absolument génial. Une remontée fantastique. Je pense que vous en souvenez tous. Hein.
Ouais,
des images. Je pense qu'on peut même encore. Moi, je peux la regarder tous les jours sur YouTube. Hein, cette finale et cette séance de tirs au but à la fin, absolument génial. Voilà. Si je devais retenir une équipe anglaise en Ligue des Champions, ce serait ce Liverpool-là.
J'ai pas le souvenir d'un autre match, en tout cas sur une finale, avec une remontée comme celle-là. J'essayais là en même temps, mener 3-0 à la
ouais,
mi-temps.
Ouais, mais Manchester City mené
1-0. Peut-être pas autant.
Tu vois, d'avoir un tel scénario et d'avoir une telle, finalement, une charge émotionnelle. Quand,
en plus.
Parce que au-delà de la victoire de Liverpool, je pense que c'est aussi la dimension de dramaturgie et d'avoir une équipe comme
plus,
ça menée 3-0.
Et en plus, l'équipe que tu as en face, c'est-à-dire l'armada milanaise de Shevchenko, le ballon d'or, menée par Ancelotti, on s'y attendait quand même pas.
C'est du Maldini, Nesta, Costa Curta,
Kaka,
petite,
Gattuso.
Petite équipe.
Mais en face, il y a du Xavi Alonso, il y a du. Voilà.
Steven Gerrard.
Surtout.
Djibril Cissé.
Exact.
Et il y a aussi.
Jimmy Traoré.
Ouais. Il n'y a pas ça à l'OM en plus.
Pas la même époque.
Pas la même époque.
C'est comme le Jeep, ça.
C'est ça. Et je crois qu'il y avait le Talek qui ne joue pas la finale, mais dans.
Mais il est dans le groupe. Ouais.
Il est dans le groupe.
Anthony Le Talek,
du coup, il est champion d'Europe. C'est beau quand même. Hein.
Incroyable.
Ça, c'est les genres d'histoires qu'on retrouve en Ligue des Champions. Est-ce que pour vous, c'est la plus belle finale de l'histoire de la Ligue des Champions?
Dans mes souvenirs, oui. Enfin, il n'y a pas mieux. Après, il faut bien sûr aimer les scénarios un peu fous, ce genre de match. Mais un scénario pareil, je n'ai pas le souvenir. En tout cas, depuis que je suis né. Faudrait peut-être regarder plus tard. C'est ça,
en fait. Ça dépend le critère que tu prends. Si tu prends le scénario, l'émotivité, le jeu, l'improbable, c'est évidemment cette finale. Si tu veux prendre la qualité de jeu, par exemple, tu peux citer d'autres années comme 2011 avec le Barça de Guardiola qui marche sur Manchester United. C'était une finale en termes de niveau de jeu où on avait atteint vraiment son paroxysme. Mais c'est pas la même émotion.
Ouais, ou ouais, Ajax, tu vois, Ajax-Juve ou Milan-Ajax, tu vois, deux années d'intervalle. Si on parle en termes de niveau aussi, c'était deux équipes monstrueuses. Après, je réfléchissais un petit peu sur les dernières années.
En termes d'intensité, mais plus de scénario, je pense qu'il n'y a vraiment pas mieux.
Ah, hein. L'Atlético Real aussi, qui est pas trop mal. Quoi.
De 2014.
Ouais, de 2014.
Le but de Sergio Ramos
à la fin. Il y avait une belle confrontation de philosophies qui s'affrontaient. Enfin, c'est peut-être pas le même niveau, mais il y avait. Enfin, moi, j'ai vibré en tout cas dans cette finale.
Ouais. Et bah, écoutez, on va enchaîner sur un nouveau tirage au sort que j'ai déjà un petit peu effectué. Donc, sur le chapeau 1, c'est pronostic. Donc là, on va changer carrément d'ambiance. On va faire des pronos sur cette phase de poule de Ligue des Champions. Donc, je prends un papier, le premier qui me vient. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, quelle équipe en phase de poule va mettre le moins de buts? Voilà, quelle équipe, vous voyez, sur les 32 qu'il y a, quelle équipe va mettre le moins de buts? Hugo, je te sens réfléchir, Jean, que
ouais,
en pleine
ouais,
réflexion,
non,
là.
J'ai vu le résumé de Naples Étoile Rouge de Belgrade.
Ouais.
Et,
il y a une pluie de buts, c'est ce que tu veux dire.
c'est tout à fait ça. C'est genre beaucoup, beaucoup de buts. Non, en gros, le Napoli a clairement dominé tout le match et l'Étoile Rouge de Belgrade, ils n'ont pas produit grand-chose. Donc, si je devais miser sur une équipe, je pense que ce serait eux.
Attention, on a un Serbe dans l'émission. Hein.
C'est
attention.
Vrai
ouais, ouais, ouais.
Boris, en plus, je suis fan de l'Étoile Rouge, mais
tu vas te faire des Hugo.
Il fallait me prévenir avant, quand même.
Mais en même temps, je peux pas donner trop tort à Hugo sur ce truc-là, parce que c'est vrai que l'Étoile Rouge cette année, étrangement, on se qualifie pour la Ligue des Champions avec une des équipes les plus moyennes sur les 15 dernières années, ça a été assez compliqué quand même, hein. Les dernières campagnes. Alors, c'était pas en Ligue des Champions, parce que ça fait très longtemps que l'Étoile Rouge n'était pas qualifiée, parce qu'ils gagnaient pas, de toute façon, le championnat, puisque c'était le Partizan. Ils ont perdu quelques joueurs, mais on va dire que c'est quand même très poussif, hein. Ça a été poussif pendant les barrages. Quand j'ai vu le tirage, je me suis dit que l'étoile rouge, ça allait être très, très, très compliqué.
Hier avant-hier, je crois pas qu'il se procure une seule occasion. Enfin, c'est.
Non, mais on n'est pas sur du niveau de Ligue des Champions. Tu vois, on sent que c'est le chapeau 4, quoi.
Mais en plus, la difficulté qu'ils ont, c'est qu'ils ont. Ils ont dans leur groupe le PSG, Liverpool et Naples. Bon, ils ont déjà
joué
Naples.
Et là, le prochain match qu'ils vont jouer, donc c'est ils vont se déplacer au Parc des Princes. Donc un Paris Saint-Germain qui en plus sera un chouïa revanchard pour.
Ouais, ouais, carrément. Après carrément. Liverpool. Carrément, carrément. Et toi, du coup, Ambre, quelle équipe tu vois marquer le moins de buts? Est-ce que tu restes sur l'étoile rouge de Belgrade?
Ça me va bien.
Ça te va bien?
Oui, ça me va bien.
Ouais, c'est un bon choix.
Ouais, personne voit le Victoria Pilsen ou la VK Athènes ou un. Même Monaco, je ne sais pas pourquoi. Je sais pas.
Non, Monaco, ils ont des forces offensives quand même qui leur permettent.
Après, je pense
jamais. Ça marque déjà aussi.
Contre Bruges, au moins.
Oui.
L'aller-retour final, le finish de la phase de groupe pour Monaco contre Bruges. Après, a priori, les forces en présence, normalement, penchent du côté de Monaco.
Après, c'est surtout la corrélation entre. Et la faiblesse de l'équipe et la difficulté ou enfin le caractère de tu vois de difficulté dans le groupe. Donc je sais pas si on peut faire vraiment pire que le ratio étoile rouge entre le talent et l'adversité. Tu vois.
Ils sont clairement dans le groupe de la mort, donc c'est
oui,
compliqué
et en,
pour
eux. Et en plus ils sont face à trois équipes qui savent bien défendre. Que ce soit Liverpool qui est maître dans l'art de subir, Naples. Avec Ancelotti qui est très bon aussi dans ce domaine et le Paris Saint-Germain.
C'est un peu compliqué sur les côtés, mais.
Ouais. C'est compliqué, mais a priori devant Belgrade.
Ils ont perdu Radonjić, tu vois, il est parti donc.
Et le Paris Saint-Germain avec sa charnière et en tout cas a priori chez eux ils vont pas en prendre, ça va être difficile.
Bon, moi je mets un biais sur les Young Boys de Berne de Guillaume Moiro parce qu'ils ont un groupe quand même assez difficile avec Manchester
tu
United.
Pas Guillaume Moiro, toi.
Absolument pas. Non, en vrai, je l'aime beaucoup parce que il est ultramarin comme moi, de l'océan Indien comme moi.
Et qu'il a un sens de l'humour très raffiné comme toi.
Et il joue de la guitare merci. Comme toi en plus.
Absolument.
Du reggae comme toi.
J'aimerais. Je vais prendre des cours avec lui. Je vais lui demander d'apprendre à jouer de la guitare.
Je crois qu'il a que ça à faire. Hein. Ça tombe bien.
Bah ouais. Non, mais tu sais que c'est un de mes rêves de jouer de la guitare. C'est un truc que j'ai toujours voulu faire et j'ai pas réussi à le faire. Bon, là, je
digresse
beaucoup.
Bienvenue dans Guitare FM.
C'est ça. Mais ouais, ils ont Manchester, Valence et la Juve dans leur poule. Ça risque d'être assez compliqué. Donc,
justement, après, ils n'ont pas grand-chose à perdre. Mais, je veux dire, ils ont un gros groupe aussi. Mais, de ce que j'en ai... Alors, je n'ai pas vu jouer les Young Boys de Berne.
C'est difficile à dire, hein, d'ailleurs.
Young Boys de Berne. Ouais, non, ce n'est pas évident.
Un nom de groupe.
L'équipe de Guigui, quoi.
Ouais, ouais.
Voilà, c'est ça.
Ça avait l'air de scorer, en tout cas, de ce que j'en ai entendu. Ça a l'air de scorer. Ils n'ont pas grand chose à perdre. Donc, je compare avec l'étoile rouge de Belgrade encore. Je reviens. Et pour le coup, ils n'ont pas beaucoup proposé. Alors que Young Boys de Berne ont l'air un peu plus détendus en se disant bon, de toute façon, on n'a pas grand chose à perdre. Je sais pas.
Alors, on l'a pas vu dans ce match-là, mais il y a Boakye qui est revenu là, pendant l'été, qui est l'attaquant de l'étoile rouge, qui était parti en Chine et qui est revenu. Qui d'ailleurs a été annoncé à Rennes pendant le mercato. Finalement, ils ne se sont pas positionnés. C'est dommage parce que c'est un très bon attaquant et qui a quand même beaucoup planté l'an dernier pour Belgrade. Donc là, on l'a pas vu dans ce match-là, mais c'est pas dit que tu vois qu'il n'arrive pas non plus à en planter quelques-uns.
Oui, après t'es certainement plus connaisseur que moi. Donc,
non, mais tout ça pour dire qu'il y a quand même. Faut pas non. Enfin, tu vois, ils sont pétés, mais il faut peut-être pas les entendre.
Et on va rester.
Ça me fait mal au cœur de le dire.
Un peu dans le même ordre d'idées, mais un peu plus poussé. Quelle équipe ne va pas gagner un match sur cette phase de poule?
Là, c'est compliqué.
Ouais. Déjà, il n'y a pas l'OM cette année.
Est moche, c'est qu'on va encore redire Belgrade. Peut-être.
Ouais, moi, Belgrade, franchement.
Ils ne seront pas tout seuls, les gars. Il y a d'autres groupes quand
Bien
même.
Sûr.
Non, je pense qu'ils ne seront pas tout seuls. Bah...
C'est vrai que c'est le groupe de la mort. Et Belgrade est l'adversaire le plus faible de ce groupe.
Mais Abdallah, il est content qu'on dise l'étoile rouge, parce qu'il a toujours en travers 91, là, je sais que...
Tu sais que j'avais un an, même pas.
Et tu vois, ça, depuis t'es un an, t'as le somme comme ça, c'est pas bien, passe à autre chose.
Ah, mais ils sont rattrapés l'année de mes 3 ans, tu vois.
C'est
pas mal.
C'est pour ça que t'es
deg. Donc l'étoile rouge, on reste là-dessus, sur gagne pas un match. Est-ce qu'on rajouterait pas d'autres équipes?
Non, mais Pilsen, enfin, c'est pas non plus très fort, comme tu disais... de la pas gagner un match. Je pense qu'ils vont prendre un point ou tu vois enfin des points à l'arracher comme ça.
Là, on dit vraiment ne pas gagner.
Pas gagner donc, pas pas à zéro point. On laisse les records à. On les laisse à Marseille, les records. Pas les partager.
À jamais les premiers. Pour nous,
je citais Bruges tout à l'heure, mais c'est un petit peu pareil. Bruges aussi dans le groupe de Monaco, de l'Atlético, de Dortmund.
Moi, tu vois, moi je les vois bien embêter Monaco. Ouais, chez eux. Voilà, c'est mon petit prono. Je dis pas de me suivre sur des cotes.
Je vois pas pourquoi tu dis ça. Au Louis II, il y a quand même une atmosphère incroyable, électrique, poussée par un public de feu.
Ouais, mais l'histoire de Ligue des Champions, ça va.
Surtout en déplacement. Si. Pour le coup, en déplacement, c'est vrai que Monaco, on l'avait vu notamment du côté d'Arsenal. Là, c'était un public de feu.
Ouais, en 2015, mais c'est vrai qu'ils ont un des publics qui se déplace le plus en France. Mais j'ai regardé encore le match contre l'Atlético lors de la première journée de Ligue des Champions.
Parce qu'ils ne résident pas sur le rocher monégasque,
c'est les supporters. C'est vrai qu'ils ont des supporters un peu dispatchés.
Ils font du golf dans toute la France.
Et puis apparemment, il y a autant de gens à l'extérieur qu'à domicile. C'est bien, tu vois. Ils tournent à 2000 comme à domicile.
Mais ça fait un beau dep, hein. Ouais. 2000 supporters.
Ouais. Bah, c'est pas mal.
C'est à domicile que c'est plus compliqué quand t'es que 2000.
Bah, mais Bruges, je sais pas.
Bah écoutez, on verra. Moi, c'est mon prono, c'est mon cœur qui s'exprime.
Ton cœur belge.
Mon cœur belge, j'aime beaucoup l'accent belge. Voilà. Alors, on va enchaîner sur les souvenirs. Donc, souvenirs de joueurs ou d'équipe. On va voir ça tout de suite. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Joueurs. Ah, c'est bien ça, on n'avait pas eu encore. Donc, souvenirs de joueurs d'un club. J'aimerais bien un club français. D'un club espagnol. Souvenir de joueur d'un club espagnol. Et j'ai envie de donner la parole à Hugo, qui est un peu notre hispanophone du jour.
Du jour. Alors, ça ne me revient pas. Là, il n'y a rien qui me marque tout de suite.
Joueur d'un club espagnol, ça peut être un français, italien, ce que tu veux. Il faut juste qu'il ait joué dans un club espagnol.
Tu peux dire Iniesta, ça marche avec toutes les années.
Oui, voilà. C'est bon. Par arriver.
Ambre de donne tes antisèches.
Ça marche toujours. Iniesta, c'est bon.
Non, oui, dans le Barça de Guardiola, je pense qu'on peut en prendre pas mal de joueurs et ils ont tellement, en fait, ouais, ils ont tellement survolé, trois ans de Ligue des Champions, même s'ils les gagnent pas, ils étaient tous au-dessus, Iniesta, Xavi au-dessus du lot, mais un souvenir particulier d'un match, ouais, c'est ce jour-là, Iniesta qui marque contre Chelsea, j'étais clairement.
Ah ouais, c'est vrai.
Pourquoi bon c'est peut-être aussi Drogba mais voilà j'avais j'étais pour Chelsea et moi ça aussi, m'a fait mal au cœur ce match mais en même temps quand Iniesta marque tu ne peux que
applaudir adouber.
Voilà c'est ça c'est quel joueur à cet instant-là marquer ce but-là enfin c'est incroyable et non je pense que c'est un moment qui m'a marqué un joueur un moment
est-ce qu'on peut dire que c'est à ce moment-là qu'est né le Iniesta clutch. Donc 2009, là, tu parles de la demi-finale 2009 contre Chelsea. Un an plus tard, il marque en finale de Coupe du Monde. Il a marqué des buts importants, très importants.
Plutôt, ouais.
Et j'ai l'impression que c'est peut-être, je sais pas, c'est le premier vraiment dans sa carrière où il fait vraiment basculer le destin de son équipe. Mais pour moi, c'est un peu la naissance de cet Iniesta-là qui devient le héros de son club, puis après de la nation. Je sais pas ce que t'en penses, Boris.
Iniesta, je pense qu'au Barça, il s'est inscrit comme. On est au-delà du grand joueur ou du souvenir, hein, dans la légende du Barça. Si tu dois garder 5 joueurs, et sûrement qu'il est dans ces 5-là, dans toute l'histoire du Barça. Ce qui lui manque, malheureusement, c'est son ballon d'or. Et qu'en 2000, tu parlais de 2010, il marque en finale de Coupe du Monde, et pour autant, il ne prend pas de ballon d'or. Moi, ça restera un peu le goût amer d'Iniesta.
Pour tous les amoureux du football, je pense.
Parce que moi, je t'avoue, je l'appelle même pas Iniesta, je l'appelle Don Andrés, tu vois. c'est un monsieur du foot.
Tu pleures avec lui, c'est simple.
Il est tellement inspirant, je trouve, dans son jeu et dans la façon de faire jouer les autres. Et en même temps, il est capable de dribbler ou de faire la passe qui fait que tu t'attends pas à ce qu'il fasse ça.
Et dans son humilité, même dans le jeu. Il dégage une humilité pétrie de talent, pourtant.
Mais ouais, ce jour, enfin, c'est plus en finale de Coupe du Monde où en plus il sort son maillot où il le dédicace à son pote
de l'Espagnol,
Barcelone. Enfin, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu.
J'ai son pas départ d'heure blanc, n'oubliez pas.
Et il y a trop de choses qui rentrent en jeu en fait pour pas aimer ce mec-là. Même si j'ai pas été toujours fan de ce Barça-là, tu peux que applaudir.
Ouais. C'est un ensemble. Un autre match qui vous vient en tête d'Iniesta en Ligue des Champions où il a un peu marché sur...
Contre le PSG, j'allais dire. J'ai des souvenirs, il nous a fait quand même bien mal, tu vois, sur des décalages ou sur des...
Tu vois, c'est ce que je dis, à qui il n'a pas fait mal? Et quelle campagne de Ligue des Champions n'a-t-il pas marqué de son empreinte?
C'est vrai. Très peu. C'est vrai.
En revanche, moi, un joueur du Barça de cette époque-là, j'en aurais choisi un autre que peut-être personne ne t'aurait même pas mis dans le top 5 que tu évoquais.
C'est toi qui me l'as soufflé quand même.
Oui, non, mais c'était, c'est vrai, mais c'était Dani Alves. À l'époque, je trouve le meilleur de Messi et sous le meilleur de Guardiola, pour moi, la pièce maîtresse, mais qui était un petit peu dans l'ombre de Messi, c'était quand même Dani Alves, qui était l'homme de couloir qui servait Messi. D'ailleurs, je crois. Je me demande si encore aujourd'hui, autant d'années après son départ, c'est pas lui qui est encore le meilleur passeur.
Pour Messi ?
De Léo Messi, je me demande. Ouais.
Ah, il faut regarder les stats, on demandera...
Je sais qu'il était dans, vraiment, quand il est parti, bon, il était de très 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 loin, mais lui, il est vraiment formé à la sauce Guardiola, et pour moi, il a été l'un des maîtres à jouer de Messi, c'est lui aussi qui l'a porté. Dans
moi, je me rappelle surtout de ses centres de l'extérieur du pied qui étaient...
Magnifique. Il en fait encore quelques-uns.
Absolument magnifique.
Du côté de la Juve, il en faisait quelques-uns.
À Paris, il en a pas trop fait.
Non, pas trop. Mais à la Juve, il en servait.
Chez nous, il met que des coups francs.
C'est déjà bien.
Pas mal.
Et on va enchaîner toujours sur les souvenirs, mais d'une équipe italienne en Ligue des Champions. Boris, souvenir d'une équipe italienne?
Le Milan de 94.
De Capello?
Je
crois que 94, c'est Capello,
c'est
il me semble.
C'est déjà Capello?
Il me semble. Hein.
Bon, bah, tu vois, alors je vais en prendre un autre, je ne me trompe pas. Alors, si tu m'attrapes comme ça. Bon, ça peut être la Juve aussi, de 97. Non, ça, c'est Dortmund, pas 97.
Ouais, c'est 96.
C'est 96, la Juve, non, Ravanelli, non.
C'est 96, ils gagnent la Ligue des Champions. Hein.
Ça peut être l'Inter de 2010. Non, mais en fait, il y a tellement d'équipes italiennes. Les années 90, elles ont été aussi très marquantes pour le foot italien. Là, j'avais sauté à l'Inter en 2010. Mais tu vois, que ça soit la Juve ou le Milan, si tu prends sur ces, tu vois, une année sur deux, c'était là. Je me rappelle du PSG Milan où Boban il marque justement au Parc et il élimine le PSG en Ligue des Champions en demi-finale. Où c'était cette époque-là où l'Italie régnait sur le
la
foot.
La destinée européenne de Milan était belle en plus sous Berlusconi. À
c'était, c'était magnifique de voir et le Milan et les joueurs et année après année ça changeait et ça restait une machine. Mmh. Tu vois, c'est jusqu'à très récemment que le Milan s'est un peu écroulé et pendant très longtemps. Alors, je suis pas spécialement fan du Milan,
mais
j'ai toujours aimé le Milan.
Tu quasiment vois, genre presque.
L'équipe de prestige
20 ans,
en tout cas pendant très longtemps, il y avait un certain prestige à porter le maillot.
Bah pendant 20 ans en fait, ça a été une des meilleures équipe d'Europe vraiment au sommet quoi.
Mais tu vois, en plus on oppose souvent l'histoire et le prestige au nouveau club, au nouveau riche, etc. Et souvent on oublie le Milan là. J'ai l'impression quand on parle des quatre gros, on dit il y a le Real, le Barça, United et le Bayern. Ou alors si c'est pas United, c'est la Juve. Et je comprends pas comment on peut oublier le Milan. C'est pas parce que
oui, ça fait quand même 6 ans qu'on ne voit plus.
United, ils font quoi?
Cette équipe s'est effondrée. Oui.
Non, mais est-ce qu'on les met encore, United?
Bah ouais, ils y sont régulièrement dans les gros parce qu'ils ont gagné 5-6 fois.
Je pense que United, l'aura de Ferguson aussi a porté cette équipe pendant très longtemps. Il y a eu l'aura de Ferguson qui planait sur cette équipe. Parce que n'avait plus Milan, il n'y avait plus aucun point de repère du côté de Milan. Pour aimer, il n'y avait plus d'âme du côté de Milan, celle qu'elle a connue en tout cas dans les années 90-2000. Alors qu'on s'accrochait encore à Fergie du côté de...
Mais tu te rends compte qu'en tu vois, 2010, t'as encore Ronaldinho, Beckham...
Mais c'est déjà sur la phase un peu descendante à ce moment-là. Ouais.
Ils ont encore Ibra, tu vois, en 2011.
Oui, mais là, c'est le moment où ça a commencé à dériver. Le Milan, c'est on achète des joueurs qui ne nous servent plus. On est juste là pour faire du marketing. Enfin, c'est le début de la fin.
Le titre d'Allegri, pour moi, c'est le début de la fin.
Ouais.
Dans le titre du Milan, c'est vraiment le début de la fin pour cette équipe-là. Qui, encore, je le répète, pendant 20 ans, la fin des années 80... aux années 2000, en fait, a dominé le football européen. Je compte même pas les Ligues des Champions qu'ils ont gagnées sur cette période-là. Enfin, 4-5 facile, je crois. Donc, c'est pas mal, quoi.
Mais étrangement, en plus, on a grandi avec ce mythe un peu du Milan, dont on se rappelle, mais tu vois, genre, je me trompais d'entraîneur ou je peux me tromper d'année. Mais les années 2000, où t'as Shevchenko, où t'as Kaka, où t'as
les ballons d'or dans l'équipe.
Pirlo, Maldini, t'avais que des dingues à chaque poste, quoi. C'est juste pour ça, tu vois, le Milan, ça restera, je pense, une équipe un peu intemporelle. C'est vraiment parce qu'encore une fois, on parlait de la Juve, on pourrait dire la Roma à certains moments.
De toute façon, si tu fais le 11 de légende de la Juve et celui de Milan, il n'y a pas photo, je pense. Le, Ah, quoique.
Non, mais
le 11 de légende de Milan, on voit quand même.
Ah, c'est compliqué de le faire, Laurent. Il y a tellement de grands potes, je peux en faire 3-4, ouais. Équipe A, B, C, D, c'est assez compliqué, ouais. Mais c'est vrai que moi, le Milan, comme tu dis, Boris, c'est une équipe qui reste un peu dans l'imaginaire collectif. Quand tu parles de Ligue des Champions, t'as le Milan, t'as le maillot rouge et noir, t'as toutes ces... Il y a des années où ils n'étaient pas très bien, mais pourtant, ils étaient quand même là. Moi, je me rappelle de demi-finale contre Manchester où, clairement, ils étaient plus dans le truc, mais ils étaient quand même là. Et quand Marseille les joue en 2010, c'est comment dire, tu sens que c'est prenable, mais il y avait encore ce truc de grand club de, en fait, on n'est pas aussi prenable que ça, on reste comme le Milan.
Il y a un aura, de toute façon. Bien
pardon
sûr. C'est comme Manchester United, c'est ce qu'il disait. Il y a une âme.
C'est ça, il y a une âme. Il y avait encore Inzaghi, c'était plus le Milan d'Ancelotti qui gagne la Ligue des Champions en 2007, mais il y avait quand même encore ce truc de grand club et ça me fait mal de plus les voir, c'est vrai. Dans la plus belle des compétitions.
Ouais,
en fait.
On pensait que cette année, ça irait peut-être un peu mieux, tu vois, qu'ils se relançaient et ça n'a pas l'air d'être mieux reparti, quoi. L'an dernier, ils ont beaucoup investi pour des résultats assez médiocres par rapport quand même à l'image du club.
Et c'est un club qui est devenu instable, en fait. Même au niveau des entraîneurs, de l'équipe, des prêts, c'est des choses qu'il n'y avait pas avant. Quand on s'engageait à Milan, c'était presque un gage de vie, à vie, quoi. Milan, c'était une institution. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus déséquilibré. Cette équipe, elle est bancale. Les entraîneurs, ils ont une durée de vie qui est ultra limitée.
Et ce qui est assez étrange, c'est de faire le parallèle avec la Juve, où on aurait pu se dire qu'avec la rétrogradation administrative, tu vois, ils s'en seraient jamais remis.
C'est le contraire, en fait.
Et la Juve, ils sont remontés un an après. Avec Deschamps.
Mais la Juve, elle a assis sa domination par le territoire aussi. C'est-à-dire que c'était une domination nationale quand Milan allait chercher, lui, l'Europe à l'époque. Et finalement, la Juve, aujourd'hui, a assis sa pérennité.
C'est vrai. Et en plus, la Juve a bâti avec Conte pendant très longtemps. Et après, ils ont pris Allegri, qui était au Milan. Justement, c'est le dernier entraîneur à avoir gagné le championnat avec le Milan. Et depuis, ça fonctionne. Ils ont fait quoi ? 2 finales de Ligue des Champions
en 4 ans.
C'est plutôt pas mal.
C'est plutôt pas mal. Mais ça fait 20 ans qu'ils n'ont pas été la chercher, quand même.
Ouais. Ça fait mal. Et on va enchaîner sur un pronostic. Donc, quel champion du monde va briller durant cette phase de poule? Donc, je vais me lancer. Moi, je vois vraiment Antoine Griezmann. Je le vois vraiment briller sur cette phase de poule de Ligue des Champions. Déjà, sur le premier match, il met une passe D magnifique à Diego Costa. Et je pense que sa victoire en Ligue Europa plus la Coupe du Monde, ça l'a vraiment libéré. Il y a cette déclaration où il dit « je mange à la table ».
Tu peux m'asseoir à la même table.
Ouais. Bon.
Il s'est fait reprendre de voler un peu.
Bon, je pense qu'il n'est pas à la même
Sergio
table.
Sergio Ramos a été un peu fort.
Ouais, mais il n'est pas à la table des enfants, tu vois. Il n'y a pas 10 tables d'écart. Je pense qu'il est vraiment parmi les top attaquants et je le vois vraiment briller cette saison en Ligue des Champions.
C'est compliqué parce qu'apparemment, il n'y a que 2 tables. Donc, il y a la table de Messi et Ronaldo et il y a la table des autres. Donc, c'est compliqué d'aller s'asseoir à leur table quand même. Parce que tu vois, moi, j'estime énormément Antoine Griezmann et ça peut être fondamentalement son année.
C'était
mais il y a un gap quand même. Hein.
Ouais, c'était poussif aussi l'Atlético. C'était pas peut-être l'Atlético de l'année dernière où. Enfin bon, il joue en Ligue Europa certes, mais ce que je veux dire, c'est que le match contre Monaco, c'est pas non plus une victoire extraordinaire. En championnat, ils sont encore en train de se chercher. Enfin,
mais c'est un peu l'Atlético. T'as parfois l'impression qu'il y a moyen, mais en fait, voilà, ils te mettent les. 2 coups d'épée et c'est fini.
Ils finissent par gagner, mais en championnat, enfin pour le moment, je sais plus à combien de points ils sont. Ils doivent être à 8 points. Enfin, ils galèrent.
On parle de la Ligue des Champions.
On parle de la Ligue des Champions, bien entendu. Non, mais c'est un tout, l'Atlético. Surtout
qu'ils ont quand même perdu des joueurs qu'ils n'ont pas forcément, tu vois, remplacés. C'est une équipe qui est sur une fin de cycle, hein, parce que soit Godin, ça fait quand même de nombreuses années qu'il est là. Ils ont gagné des titres. Est-ce que tu as la Ligue des Champions? On sait que ça marche beaucoup à la motive, mais aussi d'avoir un groupe sur lequel tu peux compter. Et quand tu n'as plus de la motive, est-ce que tu peux compter sur ton groupe?
C'est pour ça que je vois Griezmann. Je pense qu'il a la motive d'aller chercher cette compétition-là, parce que c'est important. Il sait que c'est important pour un footballeur dans la ligne de palmarès. Et là, la Coupe du Monde, c'est très bien, mais on sait que Ronaldo a la Coupe du Monde, mais on lui parle souvent de l'absence de Ligue des Champions. Il sait que ça compte et je pense que ça peut le motiver.
À la différence près que Griezmann, c'est un joueur de collectif. C'est un joueur qui va se donner, tu vois, pour le collectif et qui ne va pas forcément briller C'est pas l'équipe qui brille pour lui, il se met au service. On le voit en finale de l'Europa League l'an dernier, on l'a vu tout au long de la Coupe du Monde. C'est un mec qui va se donner corps et âme pour que son équipe réussisse. Et pour être vraiment mis en avant, tu vois, c'est pas que ça va pas forcément, il va pas forcément briller, mais on le verra peut-être moins qu'une équipe qui joue pour le, tu vois, qu'une Juve ou qu'un Real le faisait l'année dernière, jouait pour Ronaldo, tu vois. Mmh. Et c'est là où c'est compliqué pour Griezmann de s'asseoir à la même table, parce que toute l'équipe joue pas pour lui, et je sais pas s'il a le même talent qu'un Messi pour porter l'équipe tout seul.
Et tu prendre vois. Le jeu à son compte,
voilà.
À lui tout seul.
C'est pour ça que c'est peut-être un peu plus compliqué.
Surtout dans une équipe qui joue aussi collective, pour le coup. Parce que même le style de jeu ne se prête pas aux individualités.
C'est vrai. C'est vrai.
C'était un peu le sens de ce que j'essayais de dire. Mais...
Et on me l'a résumé en trois mots.
Demande-moi la prochaine mieux. Fois, n'hésite pas.
Elle donne des antisèches et elle résume les pensées.
C'est parce que je digresse beaucoup en plus.
Mais du coup, toi, tu vois qui, Boris, comme champion du monde qui va briller lors de cette phase de poule?
S'il a l'opportunité d'être titulaire, comme ça a été le cas mardi soir, je verrais bien Presnel.
Ouais.
Parce qu'il est dans une, il y a des enjeux pour lui de se montrer, et c'est pas, tu vois, le fait d'être titulaire, va y avoir une responsabilité. Si jamais il arrive à assumer cette responsabilité là,
il les porte généralement dans les matchs à enjeu, il les porte.
Ouais. Généralement, mais après faut voir si tu peux être régulier, parce que le faire au coup par coup et être très très bon, il a montré qu'il était capable. Après, il faut pouvoir l'être à chaque match. Et le révélateur de la Ligue des Champions, c'est qu'il faut être très bon à chaque match. C'est pas t'en fais un et puis après on ne voit plus. Faut encore qu'il soit titulaire.
Il devrait jouer. Il devrait jouer. Non, enfin je.
Après, je trouve que c'est un des seuls qui a surnagé vraiment contre Liverpool.
Tu prends le Barça d'ailleurs, le fameux 4-0 du match aller, c'était. On l'attendait
Messi.
Pas, il l'avait mangé. Ouais.
Il avait éteint la MSN. Il y avait des montages plutôt pas mal là-dessus. Ambre, tu vois qui comme champion du monde briller cette année?
Être révélé, je vais dire plutôt Dembélé. Je le verrai bien du côté
c'est
du
vrai.
Barça.
C'est
ouais.
vrai.
Il monte en puissance, clairement. Il commence enfin à prendre vraiment ses marques aux côtés de Messi. Et pareil, s'il est titulaire et si on lui donne du temps de jeu, je pense que. Je mettrai bien une pièce sur Dembélé. Peut-être la révélation. Voilà. Alors il va falloir maintenant que les pieds aillent avec la tête. Il y a deux pieds, ce serait bien que ça réfléchisse aussi vite pour prendre les bonnes décisions maintenant. Mais si les deux fonctionnent, pour moi, il pourrait être une belle révélation cette année.
Ouais, bon choix, Hugo.
Moi, je vois bien la Juve faire quelque chose cette année en Ligue des Champions. Donc pourquoi pas Blaise.
Blaise, ouais.
Je sais pas, c'est un pari, je préfère prendre des paris. Non, mais Dembélé aussi fait un début de saison, genre il est à fond, donc j'aurais voulu prendre Dembélé.
Tu peux le prendre, hein,
je peux le prendre aussi. Ouais,
c'est pas exclusif. Hein.
Et on me vole même mes réponses, je ne reviendrai plus.
Aucune originalité. Bah tiens, Hugo, prochain pronostic, quel club français ira le plus loin? Donc il y en a trois, entre le PSG, l'Olympique Lyonnais et l'AS Monaco.
C'est pas une question facile. Pour moi, cette année, ça va se jouer entre Paris et Lyon. Enfin, vu ce qu'a montré Lyon hier, même si on les attendait pas. Et globalement, Paris, hein, même si ça me fait mal de le dire, je pense qu'ils vont quand même sortir de cette poule. C'est pas très bien parti, mais ils vont sortir de cette poule. Et après, voilà, ça se joue aussi au tirage, à la chance. L'année dernière, ils ont pas plus de chance que ça au tirage. Enfin, je sais pas, c'est difficile de savoir, mais...
Boris?
Le Paris Saint-Germain.
Ouais.
Je vais pas faire le mec et tourner autour du pot. je vois pas Monaco cette année, parce que, encore une fois, eux, ils sont en très grosse phase de reconstruction. Ils ont perdu énormément d'éléments sur les deux dernières saisons. Et là, ils font pas mal de paris. Je crois qu'ils ont recruté un truc comme 15-18 joueurs, je sais plus exactement, avant qu'ils trouvent la bonne formule. Ça arrivera peut-être au mois de mars ou au mois d'avril, et ils seront pas catastrophiques en championnat, mais je pense qu'en Ligue des Champions ça fera pas l'affaire. Et après Lyon, cette victoire là elle est belle, mais je sais pas si elle est pas en trompe-l'œil aussi, tu vois.
Mais Genesio, j'ai l'impression en tout cas qu'il arrive à surmotiver ses troupes
dans les grands matchs.
Dans les grands matchs, c'est assez incroyable.
Et d'ailleurs, moi je vais plutôt dire Lyon.
Ah ouais.
Enfin, ça veut pas dire que c'est quelle équipe je vois vraiment se qualifier. Ça veut pas dire que je vois pas Paris.
Non, c'est quel club ira le plus loin.
Ah, il ira le plus loin. Ah oui. Ouais. Bon, Paris. Bah. Mais je vois. je change mon fusil d'épaule. Mais je vois quand même Lyon sortir, a priori, du coup, de la phase de poule.
Bien sûr.
Ils ont pris une belle option exploit contre Liverpool, qui était vraiment le favori de ce groupe. Ils ont la chance qu'Offenheim et le Shakhtar se soient neutralisés. Ils reçoivent le Shakhtar, ils peuvent déjà prendre une belle option pour sortir, en tout cas pour mettre un pied dans les qualifs.
Espérons juste
avec 6 points, c'est déjà pas mal.
Espérons juste qu'ils ne fassent pas une Lyon, tu vois, contre Shakhtar de faire un partout.
C'est-à-dire un camp contre camp contre Reims, quoi.
Bien sûr.
Mais je crois que ce match-là sera à huis clos. Je crois que c'est leur match à huis clos contre le Shakhtar. Est-ce que ça peut influencer?
De toute façon, c'est l'adversité, c'est ce qu'ils mettent. En fait, quand ils sont motivés, concentrés, en forme, cette équipe, elle peut battre n'importe qui. Quand il n'y a pas ces éléments, elle peut être battue par n'importe qui, cette équipe. Mais
il suffit de voir les matchs contre le PSG. Hein. Tous les ans, ils font des matchs de fou, ils sont hyper bons.
Mais regarde contre Reims ou Caen, et on comprend pas parce que c'est parce qu'elle est très jeune aussi, cette équipe.
Et puis aussi parce que, enfin, il y a beaucoup de matchs où ils savent pas quoi faire du ballon, tu vois, sur les phases de possession. On compte
sur les individualités. Exact. Tiens, allez, on te lance.
C'est là où c'est un peu plus compliqué. Le match de City, c'est un très beau match, mais ils ont été surtout très très performants sur les contres.
C'est une force collective, c'est une défense. Donc
après,
il faut voir
aussi que c'est ça le problème, c'est que peut-être que dans les matchs où on les attend un peu moins, où on se dit ça va être facile. C'est à eux de faire le jeu et des fois ils se prennent un peu les pieds dans le tapis. Donc ça sera en fait le vrai révélateur pour Lyon. C'est pas que ça soit une bonne équipe et qu'ils aient besoin de prouver qu'ils sont une bonne équipe. Ils sont capables de très bien jouer.
Mais quand elle est dans l'adversité, exactement, davantage. Ouais. N'hésite pas à me demander.
Et quand il faut aussi prendre les choses à leur compte. Ouais, c'est-à-dire que quand il faut prendre ses responsabilités et montrer qui est le patron, ils ont un peu plus de mal à assumer ce rôle de favori plutôt que challenger, ça leur va mieux.
Moi, je veux rejoindre l'avis du groupe. Je vois le PSG aller très loin. En fait, ça fait des années que je dis que le PSG va aller loin, vraiment, alors que je suis supporter de l'OM, mais d'un point de vue purement objectif, moi je sais qu'il y a 2 ans contre le Barça, après le 4-0, j'y croyais absolument pas un instant et je comprenais pas pourquoi on en faisait des tonnes dans la presse à parler du match retour. Pour moi, c'était plié en fait. Bon, il s'est passé ce qui s'est passé.
J'y étais.
Ah, t'y étais ?
J'étais au Camp Nou, ouais.
Bah, raconte-nous. C'est... non, mais sérieux, c'est.
Raconte-nous comment tu as séché tes larmes.
Non, mais c'est comment. Enfin, j'imagine que ça arrive à mon club de cœur. Je sais pas dans quel état je serais, donc enfin je sais pas, je pense que j'aurais pleuré, vraiment je pense que j'aurais pleuré.
C'est traumatisant, honnêtement. C'est le genre de match quand tu aimes profondément un club et que tu vois les secondes qui durent des heures et que tu dois rester pendant 2 heures dans le stade, dans le Camp Nou, parce que les Catalans fêtent cette qualification sous tes yeux alors que tu arrivais avec un 4-0 dans les valises. Non, c'est traumatisant.
Mais quand tu arrives au Camp Nou après ce 4-0, tu dans ta tête tu te dis non mais
non, parce que tu te dis quand même, c'est ce qu'on disait à l'époque, c'est le Barça. Si une équipe peut le faire, c'est le Barça. Donc tu restes et puis tu as du mal à y croire de ce que tu as encore fait à l'aller.
Mais c'était pas flamboyant cette saison-là,
une inception totale sur ce match.
C'était et en plus
c'est Paris qui le lâche plus que le Barça.
Il y a un combo de mentalité, de malchance du Barça qui et d'arbitrage qui saupoudre un petit peu le tout. Et je dis pas que ça c'est l'ingrédient plus, mais il y a eu un combo magique qui te donne une jolie dépression.
Mais c'est typiquement ce qui révèle la valeur, tu vois, émotionnel du foot, mais aussi, tu vois, parfois traumatique. Moi, je l'ai vécu comme j'ai eu un petit trauma après.
C'est
tu vois,
ça que
genre,
je te dis traumatisant, c'est
trois,
le mot. Ouais.
Ah
ouais.
J'ai eu 2-3 jours où tu penses à ça, tu fais, mais vraiment, c'est arrivé, ou le c'est pas possible, t'es dans le déni. T'es un peu dans le déni, tu fais, non, mais.
Oui, oui.
Mais non, on n'a pas pu le perdre, mais non, mais. Et tu te refais le truc 10 fois.
Et pourtant, déjà, du côté de Chelsea, j'avais trouvé ça. La pilule avait eu du mal à passer quand Dembaba avait marqué. La pilule était difficile. Mais à l'époque, contre le Barça, quand Pastore avait marqué et que Pedro avait égalisé, la pilule avait eu du mal à passer. Contre Manchester City, le 3-5-2, la pilule avait du mal. Mais là, c'était.
C'était PLS.
Là, c'était vraiment le summum, quoi. Je pensais qu'ils allaient perdre, genre quelque chose comme 3-1. Il y a un moment, il y a eu 3-1, je crois.
Mais ce qui est incroyable, c'est les 5-6 dernières minutes. Ouais. Où là, on a l'impression que tout s'écroule, quoi. Tous les rêves. Parisien s'écroule.
Je pense que c'était au-delà du réel. Je me rappelle, j'avais vu en regardant ce match, c'est l'impression qu'à 5-1, là, je me dis, c'est possible.
Mais l'irréel se sentait dans le stade. C'est-à-dire qu'il y avait un silence, une chape de plomb un petit peu sur le Camp Nou, où vraiment, on entendait les mouches voler. On n'entendait plus rien parce que les supporters parisiens était estomaqué de ce qui était en train de se passer, comprenait pas 5-1, disait non mais on va pas craquer, et on voyait qu'on fonçait droit dans le mur, on le sent venir qu'on va le prendre, et les supporters catalans retenaient leur souffle, et donc il y avait vraiment un silence sur le Camp Nou. Et quand ils marquent le but, en fait le contraste entre le silence et l'explosion,
j'ai mal
est terrible.
Quand elle parle
on ressent l'émotion qu'il y a dans le Camp Nou, quoi, vraiment.
Alors on va enchaîner sur le petit prochain tirage au sort, donc c'est souvenir d'une équipe allemande. Alors, moi, je vais le prendre pour moi parce que c'est en fait ma naissance au football, j'ai envie de dire. C'est beau de dire comme ça. Il y a eu déjà la Coupe du Monde 98, forcément. Et mon autre deuxième gros souvenir, c'est cette finale de Ligue des Champions entre le Bayern et Manchester United en 99. Et je regardais ça avec mon beau-frère. Et
avec des super subs.
Ouais, c'est ça, Solskjaer. Et je vois le Bayern qui mène 1-0. Et donc, pour moi, c'était... Moi, c'était plié. Vraiment, on arrive à la fin du match, c'est ça, ils vont gagner et tout. Et je vois les deux buts de Manchester, c'était incroyable.
Tu t'es fait Ole Gunnar.
Et au lieu d'être content pour Manchester, parce que c'est un peu l'underdog qui finalement arrive à renverser la situation et qui gagne, bah, j'étais vraiment peiné pour les Bavarois. En plus, il y avait Bichente Lizarazu, j'ai kiffé son prénom, donc du coup, moi, ça me parlait vraiment.
Ah bah, c'est super comme argument.
Oh non, mais t'as 8 ans,
moi,
9 ans.
Moi, bien juste parce que je m'appelle Boris.
Exactement.
Je me trouve abject.
T'as 8, 9 ans, tu t'accroches à des trucs un peu comme ça. Et depuis ce jour-là, j'ai toujours aimé un peu les clubs allemands. Et voir le Bayern perdre quand même, ça m'a vraiment fait mal. Et quand ils ont gagné en 2001, j'étais content. Et quand ils ont perdu en 2010, ça allait. 2012, ça m'a vraiment fait très mal pour eux, chez eux. Alors que vraiment, ils étaient favoris. Et 2013, pour le coup, ça a été top.
Tu souffres
été top,
par
quoi.
Procuration.
Je souffre vite fait.
On va parler. Raconte-nous.
Non, mais vraiment, c'est un club que j'aime beaucoup. Et c'est une culture footballistique que j'aime beaucoup aussi. Donc, j'aime bien suivre un peu les clubs allemands. Mais vas-y, Boris, je vois que tu veux...
Parce que je déteste le Bayern. Je crois que c'est le club que je déteste le plus au monde.
Comment ça se fait ?
Dis-nous pourquoi.
Alors, voilà. Il y a deux raisons. La première, c'est que ça m'a toujours... insupporter ce côté où ils achètent tous les joueurs, les meilleurs joueurs de leur championnat, et du coup il se passe rien dans les autres clubs.
Dortmund est pillé chaque année.
Dès qu'ils peuvent, et les mecs dès qu'ils ont, ils sont en fin de contrat, ils veulent pas prolonger, ils partent au Bayern gratuit.
Non mais c'est génial l'institution Bayern pour un joueur.
Il y a toujours des histoires avec le Bayern. Les mecs tous les ans, moi je regarde les transferts et je vois des Rames prêtés 2 ans. Je vois des Kingsley Coman prêtés 2 ans. Et il l'achète 15 millions, des 20 millions. Arturo Vidal, il s'en va au Barça, il coûte 20 millions, lui. Non, mais c'est un club de magouille. Je déteste Lyonnais. Mec, je le déteste. Et il ouvre toujours sa bouche sur le PSG. Et depuis toujours. Et je les ai toujours détestés, franchement. Et j'ai toujours. Après, en plus, j'ai toujours adoré Dortmund, va savoir pourquoi. Donc. Tu vois, genre, pour moi, c'est...
On sent que ça vient de là, ça vient des tripes, là.
Tu vois, il y a un côté donneur de leçons, et à côté, tu vois, ils n'ont pas les valeurs du foot allemand.
Ils ont quand même une belle institution, avec des anciens dedans, etc.
C'est pas en termes de club, c'est en termes de message, le message qui véhicule. Et surtout, quand tu vois comment ils se comportent avec les autres clubs en Allemagne, et je sais, moi, j'arrive pas.
En soi, c'est le jeu, enfin... Dortmund pourrait refuser de vendre ses joueurs au Bayern,
non,
et ils acceptent
pas au prix qui sont mis sur la table.
Bah, ils pourraient accepter de les vendre ailleurs, j'en sais rien.
Les joueurs veulent aller au Bayern, les internationaux allemands ont tout intérêt.
Ouais,
mais c'était comme ça en France à une époque aussi. Lyon, ils faisaient ça aussi.
Ah bah moi ça m'agaçait, hein.
Ils recrutaient les meilleurs joueurs
quand Lyon ils mettaient
de Ligue 1.
Ils mettaient 5 millions de plus sur Michael Essien ou même 10 millions de plus parce qu'ils avaient les moyens. Quand ils allaient dire à Ribéry, bah viens chez nous, nanana, pour déstabiliser le club. Moi c'est des techniques que j'aime moyen mais qui marche très bien après.
Et
ça fait ses preuves.
Mais le Bayern il marchait énormément comme ça. Et après, je sais pas, il y a plein de joueurs que j'aimais pas. Bala que j'aimais pas, Effenberg que j'aimais pas. Tu vois, c'est des trucs. J'ai toujours aimé les joueurs de Dortmund depuis Andreas Müller, tu vois. Donc il y a Lars Ricken.
Il y a un capital sympathie en plus à Dortmund. C'est un club sympa. Il y a des jeunes en pleine éclosion. Il y a un mur jaune absolument fantastique.
Tu vois, le Giovanni Elbert, c'est pas possible ça. Enfin,
dans la fin des années.
Karsten Janker.
Dans la fin des années 90, enfin le Dortmund un peu sexy, c'est assez récent aussi. Enfin,
ouais, c'est assez récent.
Enfin, je sais pas, moi je me souviens de Dortmund des fins des années 90.
Matthias Sammer, ouais, Ballon d'Or.
Ballon d'Or, mais c'était pas aussi sexy que ça peut l'être aujourd'hui. Je pense que Klopp y a pas mal participé ces dernières années, et le Dortmund de ces dernières, enfin le Dortmund de Klopp en Ligue des Champions était incroyablement
jusqu'en finale d'ailleurs contre le Bayern.
Quand on y revient au Bayern.
Mais je sais pas, moi j'adorais c'était Dortmund, tu vois, sur Chapuisa, il y avait pas mal de joueurs comme ça.
Et pronostic, on va enchaîner. Quelle équipe surprise vous voyez cette saison en Ligue des Champions? Est-ce que ça peut pas être Lyon? Est-ce que
surprise,
Lyon,
c'est jusqu'où?
Surprise, sortir des poules.
Lyon est déjà surprise.
Ouais.
A déjà fait la grosse surprise
de cette première journée. Mais moi je dis Lyon en équipe, parce que honnêtement, je les voyais pas passer. Ils ont qui?
Ils ont Dortmund et Liverpool. Ils ont Hoffenheim et Shakhtar.
Le Shakhtar, c'est toujours une équipe qui va en huitième.
C'est Monaco.
Ah, ouais, le Shakhtar, c'est plus une surprise au final. Mais hier, ils jouent quand même. Enfin, genre, ça joue vraiment bien, le Shakhtar. Moi, j'adore parce que ça va dans tous les sens. Mais bon, on peut plus dire que c'est une surprise. En fait, c'est ça qui est compliqué avec le terme surprise. Ouais. C'est d'aller trouver. J'aurais envie de dire le Shakhtar, mais.
Le Shakhtar, ouais, c'est pas vraiment une surprise. Moi, je vois Lyon, vraiment. Pour moi, ce serait une surprise qui. Je sais pas si pour moi ce serait une surprise qui sorte quand même des poules, parce que je pense que sur le papier, déjà on pensait qu'ils allaient perdre à City, bon, finalement ils gagnent, tant mieux. Contre le Shakhtar, c'est jamais une équipe facile à négocier, surtout pour un club français. C'est une équipe qui est vraiment bien établie.
S'ils prennent l'option,
en Coupe d'Europe,
ils se font l'aller-retour à Hoffenheim a priori.
Ouais, donc
encore une fois, on ne sait pas avec Lyon.
C'est pas trop.
Tout ou rien.
Toi, tu vois qui, Boris, en équipe surprise?
Après, je réfléchissais à une équipe plus surprise dans le sens de Liverpool l'an dernier, où je ne les attendais pas à aller aussi loin, et ça a été au-delà de
l'Inter.
de mes espérances.
La Roma aussi l'année dernière.
La Roma, oui.
Tu vois, parce que Lyon, je ne les vois pas aller aussi loin. Quand tu me dis Lyon surprise, sortir des poules, ouais, mais finalement, on regarde le groupe qu'ils ont. Est-ce que c'est vraiment une surprise s'ils sortent? Ça veut dire qu'ils ont fait une bonne phase de poule, mais ce n'est pas tant une surprise que ça.
Mais United, typiquement, s'ils vont loin, c'est une surprise.
Exactement. Tu vois, là, ça me surprendrait plus, parce que je crois pas au projet tant qu'il y aura Mourinho. Ça fait un moment que je pense que Mourinho, il est plus du tout adapté à l'évolution de United, et c'est pas par lui que passera le renouveau, parce que il est en train de montrer de plus en plus que c'est un entraîneur du passé, je trouve. Enfin, tu vois, des méthodes d'aller allumer un mec et puis après de dire qu'il est chambé, et puis là, la semaine d'après,
puis défoncer les arbitres,
voilà, c'est les arbitres, et après c'est genre ouais, mais moi je suis extraordinaire, j'ai gagné deux titres de champion, et combien les autres ils ont gagné, mec, tu vois, il y a un moment donné où ça intéresse plus personne, ce genre de discours. Et donc si United allait loin, ça serait une vraie surprise. Ça me déplairait pas, parce que c'est un club que j'ai toujours bien aimé aussi, parce que il a fait rêver en Europe. Ça serait assez plaisant de les... Bon, je suis pas supporter de Manchester, mais ce serait assez plaisant de les voir aller loin. Ça serait une bonne surprise, en tout cas.
Ouais, Ambre, ton équipe surprise.
United aussi,
ouais.
Je le verrais bien.
Hugo,
j'ai dit le Shakhtar. Alors après, voilà, ça voudrait dire que si on vous écoute, Lyon et le Shakhtar sortent de ce groupe, et ça paraît un peu compliqué, mais non, l'Inter...
C'est ouais, si on t'écoute toi, ça.
Non.
On n'a pas dit que le Shakhtar allait sortir. Hein.
Non, mais moi, je vois le Shakhtar, vous voyez Lyon, donc du coup...
Il y a bagarre.
Non, l'Inter, c'est vrai, tu l'as cité tout à l'heure.
Attends, parce que si on réfléchit de manière comptable, vu que Lyon a déjà battu City... Ça voudrait dire que le Shakhtar devrait battre
City aussi, certainement, voilà. À un moment donné. Oui.
Donc,
c'est peut-être un petit peu tiré par les cheveux.
Surtout que je pense que maintenant, City vont tarter tout le monde.
Ouais.
Ils vont se mettre en mode ultra instinct, là. Ils vont aller cogner des gens.
Tu m'enlever les mots de la bouche. Cette référence à Dragon Ball Super pour les vrais. C'est pour les vrais. On va enchaîner sur un souvenir de joueur d'une équipe française en Ligue des Champions. Un joueur d'un club français en Ligue des Champions. Qui vous vient? Hugo, je te vois sourire. Allez, dis ton nom, vas-y. Qui tu veux mettre?
On parle d'un joueur français
d'une équipe française.
Le premier qui me vient, c'est Brandao. Mais Brandao,
je pensais pas que t'allais dire lui. Okay.
Non, mais ça vient de nulle part en fait.
Ouais.
C'était juste incroyable comme victoire. On va gagner
à l'Inter.
L'Inter, ça sortait. Je sais pas, c'était
une
pas
passe
le
passe du dos en plus.
Un contrôle du dos dans les dernières minutes.
Surtout qu'il avait fait exprès, hein, bien sûr.
On sait très bien.
Déjà, la chatte à Dédé, hein, c'était assez incroyable comme match. Je nous voyais tout sauf aller en... C'était en quart de finale de Ligue des Champions cette année-là, en fait.
Alors qu'on fait une saison merdique en championnat.
Clairement.
Ah ouais. Mais en fait, le truc qui est fou, c'est que le match aller, je crois qu'on fait 1-0. sur un but à la dernière minute d'André Ayou. Je me rappelle, j'étais dans mon salon, j'exulte comme jamais. Mon père, il était avec des gros yeux comme ça. Et ce match retour, on prend un but, je fais ah, c'est fini. C'est fini là, ça y est.
J'ai à peu près la même réaction.
On gagne 1-0 pour rien. Vas-y, ça me saoule, on fait une saison de merde. Et là, Brandao arrive. Quel héros, quoi. C'est incroyable. J'aurais pas pensé à lui, mais ok, Brandao.
Ouais. C'est tellement surprenant qu'en fait, ça reste un grand souvenir.
Après, je pense que ce qui est assez appréciable pour nous les Français, c'est qu'on n'a tellement pas d'occasion, tu vois, de vibrer sur des moments très, très, très importants de la Ligue des Champions, que moi, j'ai des souvenirs assez simples de Ligue des Champions. Genre un but de Laurent Leroy contre le Bayern à la 93e, avec le match commenté par Aimé Jacquet. J'étais pas au parc. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais j'étais donc devant ma télé. C'était Aimé Jacquet qui commentait et Laurent Leroy qui marque à la 93e et on gagne 1-0 dans les phases de poule. Parce qu'on n'allait pas très loin à l'époque. Hein, donc, et où il y a le but de Charles-Édouard Coridon, oui, tu vois, en coup du scorpion, qui a été
improbable.
Qui est encore pendant très longtemps, ou si c'est peut-être encore même maintenant le but le plus beau de l'histoire de la Ligue des Champions, qui avait été élu.
Enfin, entre-temps, Ronaldo, on a mis.
Il y avait eu, mais je crois qu'il avait été élu plus beau but de la décennie, c'était en 2004, si me semble. Si je
devant,
me trompe pas.
Devant la reprise de Voyette de Zidane.
Ouais.
Putain.
C'est l'espèce de coup du scorpion là, qu'il avait mis. Donc, tu vois, j'ai des souvenirs assez simples de Ligue des Champions comme ça.
Ce PSG-là.
Le 7-2 contre Rosenborg, mais ça c'était en poule encore, tu vois, j'ai que des souvenirs de poule quasiment.
Mais c'est marrant que tu gardes pas des souvenirs PSG Qatari, quoi, au final.
Bah parce qu'après
il y a Liverpool, justement, on en parlait, PSG Liverpool aussi,
ouais, mais
finale des vainqueurs,
on gagne 3, ouais, mais tu vois, c'est pas la Ligue des Champions, du coup,
ouais.
Donc c'est la Coupe des Coupes, mais non, mais parce que je pense qu'aussi il y avait ce truc-là, tu vois, de où on avait une équipe de losers et déjà se qualifier pour la Ligue des Champions, c'était en soi, mais oui, mais comme ça l'était pour chaque club français tous les ans quand on allait en Ligue des Champions avant, bah Bordeaux était content d'aller en Ligue des Champions, Nantes aussi, Marseille aussi, le PSG aussi. On savait qu'on y allait une année,
mais dans l'ère
et que
récente,
peut-être.
Non,
bah si après, juste pour finir sur ce truc-là, tu vois, sur la logique, c'est de se dire que ces souvenirs ont été peut-être plus forts à des moments. Parce que encore une fois, on n'était tellement pas habitué à y aller que quand il se passait un truc, c'était fou. Après, sinon, je pense que le plus récent, c'est le but de Thiago Silva, tu vois, contre Chelsea.
Ah oui, et David Luiz aussi.
Ouais, David Luiz,
les
et Thiago
Silva. Les deux défenseurs
Silva.
Qui remontent au score alors qu'ils jouent à 10 contre Chelsea.
Moi, je pense que c'est ça. Ça, c'était le plus gros.
Émotionnellement, il était dingue celui-ci.
Ouais. Ou le but de Di Maria, tu vois, contre le Barça.
Et celui de Pastore contre Chelsea, non?
On va faire tous les buts du PSG.
Voilà. Ouais, mais il est tellement, en fait,
je rafraîchis sa mémoire parce que
il est tellement annulé par le score au retour que c'est un peu retombé. Mais ouais, avec son double contact sur le côté, il rentre.
Et toi, Abdallah, alors?
Le souvenir d'un joueur en Ligue des Champions. Bah moi, j'aurais dit Valbuena pour le coup. J'aurais pas dit Brandao, parce que le mec, en fait, il se révèle vraiment en France avec ce match contre Liverpool à Anfield. Où il marque un but sublime, pleine lucarne, incroyable. Et en fait, c'est un peu ce qui a marqué sa carrière. C'est des coups d'éclat comme ça avec l'OM, donc la Liverpool. Il y a Dortmund quelques années après, dont j'avais parlé un petit peu avant, où pareil, il crochette, il met une frappe pleine lucarne, un peu comme ça. Et il y a plein de matchs comme ça de Valbuena où.
C'est vrai.
Toujours dans des moments très difficiles. Et ça va, en plus, avec sa carrière, c'est pas un mec qui s'est imposé tout le temps, toujours. Non, mais il va être remplaçant.
Un sentiment de revanche.
C'est ça, un sentiment de revanche, et il fermait bien les bouches sur le terrain. Donc moi, j'aurais dit Valbuena, un joueur
français.
C'est
vrai, les buts qui sortent à des moments aussi où on ne l'attend pas, c'était assez fou, Valbuena.
Mais on a parlé de Paris, de Marseille, mais personne n'a parlé de Lyon.
Mais Ambre, c'est un but de Ravière, toi, non? À part celui contre Chelsea, tu peux en sortir un autre?
Non, celui-là, il m'allait très bien.
Il y a celui contre le Barça, t'en parlais tout à l'heure.
Oui, j'en parlais, ouais. Oui, mais pareil, il a été annulé par le but de Pedro. Donc,
Et si on devait sortir un joueur, parce qu'on a parlé de Paris, Marseille qui n'est même pas en Ligue des Champions cette année.
Un joueur pour Lyon.
C'était l'équipe la plus.
Ah, j'aurais dit Juninho.
Ouais. Juninho. Benzema, il met un but contre le Real. Moi, je m'en souviens encore, qui était fou. Enfin, c'était un autre Benzema à cette époque-là, un attaquant ultra complet, alors qu'au Real, c'est plus devenu un attaquant de fixation. Enfin, moi, j'ai jamais vu aussi fort qu'à Lyon, je crois, Benzema à cette époque-là. C'était un tueur. Quoi. Mais Juninho aussi.
Moi, Juninho, parce que je me rappelle des matchs contre le Real en poule, il coup franc et je savais qu'il y avait but. C'était c'était incroyable.
Après, il y a ce qui m'impressionnait le plus, c'était la paire Essien Diarra. Tu vois, si je devais retenir un truc de Lyon de ces années-là, c'est pas les coups francs de Juninho, c'est
la maîtrise,
l'efficacité Diarra et Sien, enfin la puissance, l'efficacité, la technique. Enfin, tu vois, ils avaient la meilleure paire de récupérateurs d'Europe cette année-là. C'est fou, quoi.
Et ce qui est triste pour Lyon, c'est qu'à un moment, ils avaient le meilleur milieu de terrain du monde.
Penalty pour Nilmar, c'est ça que tu veux?
Non, même au-delà.
sans faute sur Nilmar.
Sans parler de. Il y avait faute sur Nilmar?
Bien sûr qu'il y avait faute.
Ok. Mais c'est une équipe vraiment qui n'a pas eu de chance et qui aurait dû au moins aller en demi-finale lors de vraiment sa phase de domination, qui va en demi-finale à un moment où elle n'est pas.
Où ils battent Bordeaux en quart.
C'est ça. Ils ne sont pas exceptionnels. Bon, après, ils se font fesser contre le Bayern. Mais vraiment, ils méritaient, je pense, d'aller en demi-finale à chaque fois. Mais ils se faisaient taper par PSV Eindhoven. Il y a le Milan aussi.
La Roma.
La Roma, c'est en huitième.
Ah ouais,
avec cette passement de jambe de Mancini.
Sur Réveillère. Il fait 10 passements de jambe.
S'il y avait eu YouTube à cette époque-là, je pense qu'il aurait pris cher. Mais bon.
S'il y avait YouTube et Twitter et tout
Twitter,
ce que tu veux.
Si
oh là
les
là.
S'il y avait
des. Ça aurait été incroyable. Je crois que cette action-là, elle est dans mon top 10 des meilleures actions de Ligue des Champions. Facile.
Ouais, il s'est envolé de toute façon. Réveillère, il est parti dans une autre galaxie.
Et le but, la frappe sous la, oh là
sous
là.
La barre. Hein.
Magnifique, magnifique. Bon, il ne reste pas beaucoup de temps, donc on va essayer de faire un pronostic et un souvenir avant de clore ce premier épisode de Banquette de la saison 3. Selon vous, quelle équipe mettra le plus de buts lors de la phase de poule?
Okay. De ce que j'en ai vu actuellement, non, Manchester.
C'est-à-dire un match.
Ouais, un match, non, mais c'est vrai que c'est difficile de juger sur un match. Mais quelle équipe a fait la plus grosse impression sur le premier match?
Barça.
Ouais, le Barça. Le Barça, je pense qu'on va dérouler.
Moi, je vois le Barça, clairement.
Barça.
Avec un groupe plutôt facile. Ils ont que. Ouais. Donc, Barça, facile. Après, derrière, peut-être le Real, mais vraiment, le Barça, je pense, meilleure attaque de la phase de poule.
Ça fait penser à des années où le PSG, ils avaient des groupes peut-être tellement claqués qu'ils mettaient 25 buts sur les 6 matchs et que. Arrivé en poule, tu dis, ah ouais, en fait, c'est un peu plus dur que ça, la Ligue des Champions. Là, ça leur fait un peu ça, le groupe au Barça. Tu sens qu'ils vont dérouler dans les poules. Ils étaient à 1-0 à 20 minutes de la fin, ils finissent à 4-0. Ils ont accéléré, c'était terminé.
Ah, c'est ça, c'est clairement ça. C'est clairement ça. Ambre ?
Oui, Barça.
Barça, on est tous d'accord sur.
Je peux vous rejoindre, ouais. Non, le Real, quand ils en mettent combien ? 3 à la Roma.
Un but de
Mariano Diaz. Bien parti aussi, quoi. Quel but d'ailleurs.
Ah ouais, d'ailleurs.
Quel but.
Ok, bon écoute, on va rester sur le Barça. Et du coup, dernier souvenir, un souvenir d'un joueur d'une équipe anglaise. Donc là, on avait fait une équipe anglaise tout à l'heure, mais un joueur d'un club anglais. Quel joueur en Ligue des Champions d'un club anglais vous vient comme ça d'un coup ?
Gareth Bale, joueur de Tottenham contre l'Inter. Ou tu parles de cette année ?
Non, c'est dans toute l'histoire. Ouais. Ok, ouais.
Sur les deux matchs en plus.
Sur les deux matchs.
Aller au retour.
Quand il fait.
Contre l'Inter.
Mekon, là, c'était.
C'est le moment où le monde, j'ai l'impression, découvre Gareth Bale.
C'est clairement ça.
Et il est incroyable sur ce match.
Et on décide de qui passe de latéral à ailier gauche.
C'est ça.
C'est vrai, parce qu'il faut rappeler, peut-être pour les. S'il y a des jeunes qui nous écoutent, c'est que Gareth Bale a commencé arrière gauche. Enfin, il jouait arrière gauche. Et sur ce match-là, vraiment, il fait.
Il a
subir un calvaire à Mekon qui était arrière droit de l'Inter. Champion d'Europe en titre.
Tout le couloir droit.
Ouais, c'était incroyable. Donc, moi, j'invite les gens à regarder les vidéos sur YouTube. Il y en a pas mal.
Il y en a
plus
cette
Diana.
Fois.
Donc, il le contourne là par la ligne de touche. En fait. C'est incroyable.
Il l'a fait après avec le Real en finale de Coupe du Roi.
Ouais.
Contre le Barça, là.
C'était sur Marc Bartra.
Ouais.
C'est à 2 ou 3 ans. Hein.
Ouais, c'est ça. Ouais.
3 ans. Ouais.
Non, 4 ans en 2014.
Ouais,
c'est
où,
ça.
Il essaie de l'accrocher et finalement, il part. Et...
L'accélération.
Il lui prend 3 mètres.
C'est ça. Exactement. Donc, Gareth Bale pour. Pour Hugo, Ambre, un joueur d'un club anglais.
Bah, mon amour pour Stevie me donnerait envie de
Steven Gerrard,
de le citer, mais Drogba aussi. Marqué son temps, offre presque à lui tout seul un titre.
On va partager Drogba, toi et moi. Alors.
Ah bon, alors vas-y, je te laisse.
Vas-y, je commence et je finirai.
Et toi, qui tu choisirais ?
David Beckham.
Ah ouais ?
Ah, largement.
On pourrait même dire Ronaldo d'ailleurs à l'époque. Cristiano Ronaldo.
Ah oui,
quand je dis David Beckham pour son match contre le Real avant d'y partir d'ailleurs. C'est la dernière saison qu'il fait à United où il marque dans le match ce qui finit à
4-3.
Non, c'est le Real gagne à United.
C'est 4-3, c'est ça ?
Ouais,
un truc comme ça. Ouais,
si j'ai le droit à un coup de fil à un ami, j'appelle Julien Choquet, mais, mais sinon, il me semble que c'est 4-3 où t'as Ronaldo qui marque dans le match. Le vrai, enfin R9.
T'inquiète.
Pas CR7.
Ok, Beckham, du coup, comme a dit Ambre, moi, c'est Drogba parce que c'est vraiment la quête de la Ligue des Champions. Il a porté son équipe vraiment et il gagne ce fameux trophée l'année où son club est vraiment moins bien avec un coach intérimaire. Un coach intérimaire.
Qui est arrivé 2 mois avant. Hein.
C'est ça, et qui est reparti 2 mois après.
Ouais. Sur des contres fabuleux qui ne reposaient que sur lui. Hein.
Ben, c'est ça. Très clairement. En finale,
je
en plus.
Ouais. Il tient l'équipe.
Ouais, il marque en finale le but de l'égalisation qui emmène l'équipe en prolongation. Enfin, c'était mérité pour lui, clairement.
Après, j'ai tellement aimé United, tu vois, sur cette période-là où t'as Giggs, Scholes...
Ah, mais on dit pas que le jeu était beau, hein, par
contre. Non, mais en fait, je pourrais sortir plein de joueurs anglais, tu vois, de l'époque de United. Ouais. C'est un peu ça, le truc, c'est que je suis assez nostalgique de United, de la grande époque, de ces joueurs-là, et de me dire, OK, Scholes, quand même, c'est compliqué de enfin, tu vois, de pas le dire, ou Giggs, ou Lampard, ou tu vois, tu parles de Gerrard, c'est toujours des trucs assez durs de pas citer ces joueurs-là quand on parle de joueurs anglais, même si, enfin, on pourrait, enfin, là, Drogba, il est pas anglais, mais
non, on parlait de joueurs de clubs anglais,
joué dans des clubs anglais. On aurait pu avoir Kanto, tu vois, mais en Ligue des Champions, c'était bon, ouais, moins ça.
Alors, on est arrivé à la fin de cet épisode. Je vous posais juste une dernière question qui est assez évidente. Je pense que vous l'avez un peu deviné. Qui va gagner la Ligue des Champions cette année?
Pour moi, c'est
juste un club. Pas besoin d'expliquer, juste
Juventus.
Un club. Ok, Juventus. Ambre.
Liverpool.
Boris.
Le Paris Saint-Germain.
L'Olympique Lyonnais. Non, je rigole. Non, le Barça. Le Barça. Ok, très bien.
En fait, en vrai, j'aurais dit City, mais...
Moi, en vrai, j'étais un peu d'accord avec la Juve, quand même. Ils ont Monsieur Plus, hein.
Tout le monde fait des pronos, non, mais c'est pas pour de vrai.
Non, je veux pas dire la même chose.
Je reste sur la Juve, moi, si vous voulez savoir.
Moi, je reste sur le Barça. Ouais.
J'ai dit ce que j'avais envie de voir, et après, je dis Manchester City.
Non, moi, je pense que Liverpool a une vraie carte à jouer, mais la Juve, ils ont le Monsieur Ligue des Champions. C'est maintenant ou jamais.
Bah, rendez-vous au mois de mai. Alors, merci beaucoup, Hugo, Ambre, Boris, qu'on va retrouver toute la saison dans Banquette, d'être venu parler de la Ligue des Champions. Juste un petit tour de table pour savoir, Ambre et Hugo, où est-ce qu'on peut vous voir, vous lire, pour vous suivre un petit peu, Ambre?
Allez sur Twitter, on fera des gifs. Beaucoup sur Yahoo Sport pour ma part, après.
D'accord.
Plein d'autres projets, mais pour l'instant, surtout sur Yahoo Sport.
Très bien, et Hugo?
Et donc, moi, sur Move It de Combini, la Vertical Sport.
T'as fait le geste
ça donne
vertical.
Envie
très bien. Et Boris, avec moi.
Dans Banquette.
Dans Banquette, toute la saison.
Du côté de Belgrade, durant les soirs d'hiver.
C'est ça, aussi, ouais, les soirs de Ligue des Champions, il sera là-bas. Bah, écoutez, merci beaucoup, je souhaite une très bonne soirée et une très bonne saison de football de Ligue des Champions, plein
merci.
De buts.
Et merci d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup, ciao. Si vous voulez réagir à cet épisode, ça se passe sur nos réseaux, Twitter, Facebook et Instagram. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre une note sur Apple Podcasts, 5 étoiles de préférence. Comme toujours, merci à tous les banquettistes pour votre soutien et votre engouement. Banquette est une émission de nouvelles écoutes animée par Abdallah Swadri, prise de son réalisée par Charles De Silia, mixage réalisé par Thibaut Delage à l'arrière-boutique studio, coordination Laura Cuissard avec l'aide de Marie Jactel.